Patricia Martin, votre invitée à présent, la psychiatre Sylvie Wieworka, pour son livre « Dans la tête de ma psy » et « Comment choisir le sien ». Le livre est paru aux éditions Humaine Science.
Bonjour Sylvie Wieworka.
Bonjour.
40 ans de pratique, un métier pas banal qui suscite parfois une certaine méfiance, mais aussi beaucoup de curiosité. Diriez-vous aujourd'hui que l'expérience vous a autant appris que le savoir livresque, c'est-à-dire ce que vous avez appris sur les bancs de la fac?
Je n'opposerai pas les deux. Je pense que l'expérience vient très très utilement compléter le savoir livresque, mais que sans savoir livresque, pour reprendre votre expression, l'expérience peut rester un petit peu vaine, on va dire,
alors,
ou inutile.
Dans ce livre, vous racontez un peu d'ailleurs votre propre vie succinctement, ce qu'un psy ne fait évidemment jamais dans le cadre d'une psychothérapie. Parce que au fond, personne ne peut laisser ce qu'il est au vestiaire, et que l'histoire d'un psy n'est pas étrangère à sa propre vision du monde.
C'est ce que je pense. Je pense que nous avons un métier qui concerne pour l'essentiel la relation humaine, donc une relation entre deux ou plusieurs êtres humains. Et le psy est un être humain comme un autre. Donc ses valeurs, ses idées, son expérience personnelle de la vie vont influer sur sa façon de travailler.
C'est une expérience, enfin une relation très incarnée en fait.
Ah, je crois aussi. Je ne crois pas. Bon, vous savez que les psychanalystes sont entraînés, formés à ce que l'on appelle la neutralité bienveillante. Pour ma part, je n'ai jamais été. J'ai essayé d'être bienveillante, mais je n'ai jamais été neutre.
Alors venons-en, Sylvie Wieworka, aux conseils que vous donnez. Ils sont à la fois précieux et nombreux, parce qu'il y a beaucoup de types de prise en charge psy, vous parlez même de jungle à un moment donné. Comment est-ce qu'on peut s'y retrouver et savoir ce qui vous convient? Et je pense que précisément, compte tenu de la période que nous vivons, il y a pas mal de gens qui vont pas forcément bien, qui ont envie de consulter. Est-ce que vous les y encouragez? Et alors comment est-ce qu'ils peuvent faire? Comment s'y retrouver?
Alors, bien sûr. Bien sûr que je vais les encourager. Les gens qui souffrent psychiquement ont besoin d'aide et parfois de traitements et de soins, au même titre que les gens qui sont malades physiquement. Pour moi, c'est une évidence. Après, comment, puisque c'est le sous-titre de mon livre, comment choisir son psy, je pense qu'il y a beaucoup de hasard et parfois un petit peu de nécessité aussi. Du hasard parce que c'est comme dans toute rencontre. Moi, je le dis, c'est comme la rencontre amoureuse ou la rencontre amicale. On va rencontrer une personne et cette personne va vous intéresser, va vous plaire ou ne va pas vous plaire. Et je dis toujours à mes amis qui cherchent des psys, va voir un tel ou un tel. Mais si ça colle pas, si tu le sens pas, s'il ne te plaît pas, reviens vers moi puis on te trouvera quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que le ressenti subjectif de l'usager, du client potentiel est quelque chose de fondamental. Après, évidemment, il faut que le professionnel qui va s'occuper de vous soit convenablement formé. Et donc là, on peut s'intéresser de savoir s'il a suivi les études qui conviennent, études de psychologie, études de médecine et de psychiatrie éventuellement, la formation complémentaire qui convient à tel ou tel modèle de psychothérapie. Donc si vous voulez, ça reste un mélange de subjectivité ou d'intersubjectivité entre le patient et son éventuel soignant. Et puis des éléments plus objectifs qui concernent les titres, la formation, le cursus du professionnel.
Mais si je vous comprends bien, il faut qu'il y ait avant tout un climat de confiance et ce que vous appelez une alliance thérapeutique, puisque c'est de ça qu'il va s'agir entre ces deux êtres-là.
Bien sûr, parce que si vous êtes en souffrance et que vous allez voir un psy, vous allez être amené à le fréquenter un certain temps, ça n'est pas des thérapies ultra brèves en général, et à lui confier ou à parler avec lui de choses extrêmement intimes. Et comment demander à un patient de s'ouvrir de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent dans parfois des choses qui peuvent être difficiles, si vous n'avez pas confiance un minimum dans la personne à qui vous confiez? Enfin, je me aurait fait pas être confiance et confier, mais les mots pour moi expliquent bien la chose. Donc je pense que c'est très très difficile d'avoir envie de parler de soi à des gens qui vous sont antipathiques ou qui sont rejetants ou qui sont très froids et très distants.
Comment savoir d'abord de votre côté si vous avez été utile à un moment donné dans la vie de quelqu'un, et est-ce qu'il est possible d'évaluer la validité d'une psychothérapie ?
C'est un problème très très compliqué. J'ai fait tout un chapitre dans mon livre sur ce sujet-là, parce que avec les critères de la science de base, si je peux dire des choses comme ça, on ne peut pas savoir. Le fait que le patient soit très satisfait du travail fait n'est pas un élément suffisant. Le fait que parfois, je le dis dans mon livre, le patient soit mécontent, parfois vous avez des gens qui vont s'améliorer contre leur psychiatre. Donc effectivement, c'est une question un peu déroutante. Et moi, au fil des années, j'ai fini par penser que je fais de mon mieux. Le premier point. Le deuxième point, c'est que si tous les patients que je vois sont mécontents de moi, je pense qu'il y a un problème. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est un peu la loi des grands nombres. Si tous les patients se plaignent de moi et ne reviennent jamais au deuxième entretien, là, je me dis que j'ai pas dû bien m'y prendre. Mais le fait que les gens soient satisfaits ne dit rien non plus de la qualité du travail accompli. Donc, c'est effectivement quelque chose qui reste un peu, d'après moi, mystérieux.
Quand on se lance comme ça dans ce genre de travail et de thérapie, est-ce qu'il faut être prêt à modifier, au fond, sa vision du monde ?
Vous parlez de qui ? Là, du patient ou du professionnel ?
Du patient, mais ça peut aussi concerner le professionnel, parce que ça aussi, vous en parlez.
C'est un point central, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander que les choses changent autour de vous et pour vous et s'améliorent pour vous si vous n'êtes pas prêt vous-même à bouger. Je cite toujours des choses assez simples, c'est-à-dire que par exemple l'épouse qui vient en thérapie pour se plaindre de son mari et dire qu'il doit changer, il vaudrait mieux que le mari vienne en thérapie s'il le souhaite. L'épouse n'a que deux options. Si vraiment ce monsieur est insupportable, il vaut mieux qu'il se sépare. Et sinon, il faut qu'elle s'adapte et qu'elle accepte qu'il est comme il est. On ne peut pas venir en thérapie pour faire changer les autres. Et pour moi, il n'y a pas de soulagement de la souffrance sans changement de perspective sur soi-même et sur le monde. Ça me paraît impossible.
Alors, il y a toujours une sorte, un peu de, on va dire, de honte, pour faire vite, qui entoure la maladie psychiatrique, et beaucoup de résistance de la part de certains. D'ailleurs, il y a un chapitre là aussi où vous vous interrogez sur les bonnes, avec un point d'interrogation, les 5 bonnes raisons de ne pas aller voir un psy, par exemple, penser qu'on va s'en sortir tout seul, penser que le psy va vouloir contrôler votre vie, penser que les psys, c'est pour les fous. Mais tout ça, ce sont des évitements.
Absolument, c'est-à-dire que comprenez-moi bien, je pense pas que tout le monde doive aller consulter, mais à partir du moment où vous souffrez de ce que vous vivez et que vous n'arrivez pas à vous débrouiller tout seul avec tout ça, se faire aider me paraît vraiment la chose à faire. Alors effectivement dans ce livre je dis clairement que les psys n'ont souvent pas très bonne presse, on passe pour des gens bizarres, fous, avec des modes de fonctionnement intellectuel et personnel très particuliers.
Et vous confirmez que vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes ni fou, ni dysfonctionnel.
Ça dépend. Et parlant de moi, je pense que je suis pas la mieux placée pour le dire, mais enfin, disons que tous les psys que j'ai rencontrés n'étaient pas des modèles d'équilibre, mais il y en avait certains en qui on pouvait avoir toute confiance, il n'y avait pas de problème.
D'un mot, et pour
si vous voulez,
terminer, est-ce qu'un psy porte forcément sur le monde un regard psy ?
Je pense que malheureusement, je dirais pour partie oui, moi j'ai fait beaucoup d'exercices pour essayer de ne pas psychologiser ou psychiatriser le monde qui m'entoure, et j'espère que les gens qui vivent avec moi et qui sont autour de moi m'en savent gré, disons. Je crois qu'il faut faire attention à pas penser que toute personne qui est un peu soigneuse est un obsessionnel et toute femme un peu expansive est une hystérique. Je pense que c'est assez catastrophique de voir le monde de cette façon-là.
Merci beaucoup. Sylvie Vievjorka, je rappelle que vous êtes psychiatre et que vous publiez Dans la tête de ma psy et comment choisir le sien aux éditions Humaine Science Santé. Merci beaucoup.